vibrer au rythme de la matinale. La matinale
la plus déjantée
de la bande FM. La bande FM.
Quel coquin.
Fais le plein d'énergie dans
L'Avant-Viseur
avec John et toute son équipe.
Si on veut nous trois.
Bonjour à ceux qui sont avec nous les amis, heureux de vous retrouver en cette nouvelle journée. Merci d'être là, merci d'être connecté sur volume 3. Et aujourd'hui on est le 6 mai 2024. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui nous recevons le docteur Philippe Ouandja qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour docteur, merci, bienvenue.
Bonjour John et merci.
Bienvenue chez nous. Alors aujourd'hui on veut parler, et je rappelle que vous êtes notamment le promoteur de e-santé Cameroun, qui est l'entreprise qui met en place Clinic Home justement, et j'ai envie de vous demander ce matin, je veux parler ce matin de l'accès aux soins, mais surtout de le thème que j'ai voulu aborder ce matin, c'est on va à l'hôpital quand il est trop tard. Est-ce que cette phrase vous semble exagérée? Ou est-ce qu'elle reflète une réalité que vous observez au quotidien, le fait qu'au Cameroun, on ne va à l'hôpital que quand c'est déjà trop tard?
Effectivement, c'est une thématique qui est assez importante parce que sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être évitées. Et même le coût des soins finit par être augmenté du fait de ce retard de diagnostic, ou alors du fait que les gens ne partent pas à l'hôpital lorsqu'ils sont malades. Et les principales barrières, il y en a 5 au total. La première, c'est la barrière financière. Souvent, les gens n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital et il n'y a pas d'assurance maladie. Sachant qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a moins de 5% de la population qui ont une assurance maladie. Pourtant, on a un médecin pour 10 000 habitants au Cameroun. En comparaison, on est à un médecin pour 1 200 habitants en France. Donc, vous imaginez un peu le paradoxe. Donc, il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez de médecins, mais pendant ce temps, les gens ne vont pas à l'hôpital lorsqu'ils sont malades. Donc, il y a déjà cette peur financière, mais il y a également la stigmatisation, parce que les gens ont peur d'aller à l'hôpital. La dernière fois que j'y suis allé, il y a telle chose qui s'est passée, il y a tel qui est décédé à l'hôpital. Et ça
La peur du diagnostic un peu.
Il y a ça, et ensuite, il y a la peur du diagnostic, parce qu'à côté de la méfiance pour l'hôpital, la méfiance vient parfois du fait que les gens ne font plus confiance à l'hôpital. Les gens ne font plus confiance aux médecins. Quelqu'un s'est dit, ok, on me consulte ici, mais quand on me consulte ici, là, je ne guéris pas vite. Ou alors, il y a tel de la famille qui est décédé là-bas, nous, on ne part plus là-bas. Parce que parfois, on n'explique pas les choses convenablement. Ensuite, il y a la peur du diagnostic. La peur du diagnostic, c'est de se dire, quand je vais à l'hôpital, on va me trouver une maladie. Donc, mieux, je ne pars pas.
Pour la petite histoire, j'ai eu un bourdonnement à l'oreille de 2 semaines, de 10 jours. Et quand je racontais ça à mes collaborateurs, notamment tout le monde me disait, mais va à l'hôpital, vous dites que si j'arrive là-bas, on va me dire que j'en sais rien, peut-être que j'ai un truc. Et surtout que j'ai des allergies depuis bientôt 20 ans. Donc je suis allé voir un ORL et elle m'a dit, bon, ça c'est une allergie, on ne peut rien y faire, mais prends un calmant. Le bourdonnement, ça va, j'avais une grippe récente. Enfin, pour finir, je suis sorti de là avec un petit truc, mais ça avait l'air tellement grave parce que je me suis dit, ouais, mon oreille bourdonne, peut-être que l'ORL a me sorti un truc, mais. Alors qu'au final, rien, c'était des calmants pour l'allergie.
Je crois qu'on a tous eu ce genre de peur, de crainte. Moi, par contre, si je n'y allais pas,
je ne
sais pas aujourd'hui, donc heureusement que j'y allais. Et c'est tout le monde qui me mettait la pression. Mais vas-y, c'est pas normal, vas-y. Et même, je suis arrivée, je me suis dit, non, et si on me trouve quelque chose de grave? Et j'ai fait quelque chose de grave, il fallait vraiment qu'on me soigne. Et puis voilà, heureusement que j'y suis allée.
Ma peur.
Et ensuite, il y a les croyances.
Ce qu'il faut savoir. Justement, les croyances,
Dans notre environnement, les gens pensent toujours à la maladie est une sanction spirituelle. Ou alors, c'est un truc qu'on a lancé parce qu'on veut vous faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de compréhension diagnostique. Et je peux vous garantir qu'à ce jour, il y a même encore des professionnels de santé qui pensent parfois que certaines maladies ne peuvent pas s'expliquer scientifiquement. Certes, il y a des pathologies qui ne s'expliquent pas encore scientifiquement, mais véritablement, c'est un problème de diagnostic, de capacité et de plateau technique. Si vous allez dans d'autres environnements et qu'on utilise des examens adaptés, des machines adaptées, on est capable de poser des diagnostics.
Ça, c'est vrai, parce qu'il y a très souvent des cas où au Cameroun, on dit qu'il n'y a rien, machin. Tu vas en Allemagne, j'ai des cas comme ça, on te dit que non, en fait, on finit par trouver un diagnostic et te soigner finalement.
Oui, c'est ça.
Alors, moi, j'ai une belle sœur, par exemple, qui avait un problème hormonal. Avec ses règles, même ses hormones, machin et tout ça, elle arrivait, c'était complètement déréglé. On allait, et au Cameroun, on disait que non, il n'y a rien, c'est peut-être parce que c'est. Et elle allait en Allemagne, où elle vit, et on lui a dit non, en fait, je crois qu'elle produit plus de testostérone qu'il n'en faut, donc du coup, ça qui crée. pour finir, on l'a mis sous traitement. Aujourd'hui, elle a deux enfants. Donc, pourtant, au Cameroun, c'était impossible. On avait l'impression que c'était impossible.
C'est ça. Donc, en fait, il y a cette limite-là qui fait en sorte que les gens préfèrent se tourner vers la prière, vers les crédits praticiens. Quand quelqu'un a un cancer, la première chose à laquelle il pense, on m'a lancé le cancer. Ça veut dire que pendant que tu fais le tour de tous les crédits praticiens, le cancer continue d'évoluer. Tu arrives à l'hôpital 5 ans après, là, il est déjà généralisé, on ne peut plus rien faire, on t'accompagne vers la mort. Pourtant, lorsqu'on a diagnostiqué ou lorsque les premiers symptômes se sont présentés, on aurait pu soigner définitivement le cancer. Et la dernière limite, c'est l'accessibilité, tout simplement. La distance liée aux soins. Il y a des personnes qui sont dans les zones rurales qui ne peuvent pas avoir accès à des médecins du fait de l'enclavement. C'est une réalité.
Ça, c'est vrai.
Donc, et quand vous analysez aujourd'hui la concentration des médecins dans les différents environnements, dans Douala et Yaoundé, vous avez une forte concentration des médecins, mais dès que vous éloignez un peu dans d'autres régions.
Saint-Lima, Bertois, là-bas, c'est dur. Hein,
le
c'est
pourcentage
très, très dur.
De médecins baisse énormément. Mmh. C'est aussi une autre limite qui entraîne effectivement cette peur de l'hôpital.
Est-ce que concrètement, donc, est-ce que le retard de consultation change dans la prise en charge médicale?
Oui, le retard de consultation qui est très élevé, environ 68% dans notre contexte, en train de très lourdes conséquences sur les pathologies. On va prendre des exemples concrets.
Justement, je vais vous donner un exemple.
Aujourd'hui, avec le paludisme, lorsque vous êtes malade, vous avez le palu, vous commencez par les fonds de tiroirs, ensuite l'artémisia. Ensuite, votre maman va vous donner des médicaments à purger. Tout ça, vous êtes en train de... Le paludisme continue d'évoluer. Il continue d'évoluer. Ça veut dire que vous serez parti dans un hôpital immédiatement dès les premiers symptômes. On vous aurait fait un examen qui est le TDR palu au minimum et une NFS d'un hôpital public qui coûte environ 3 000 et quelques. Le TDR est subventionné même d'ailleurs. Et on vous aurait mis sous un traitement antipaludien de 3 500. Et vous aurez dépensé moins de 10 000 francs pour soigner votre paludisme dans un hôpital public. Et vous vous retrouvez à la phase grave, être hospitalisé, faire un neuropalu. On vous garde plusieurs jours pendant 10 000. Et à la fin, vous dépensez au moins 180 à 200 000 francs. Donc, ça, c'est un exemple.
Ça devient plus lourd et plus coûteux, finalement.
C'est plus lourd et plus coûteux. Et ça, je ne parle que de l'aspect financier parce que derrière, il y a le risque de décès. Pendant que vous attendez la pathologie s'aggrave, vous pouvez très bien en mourir. Il y a des gens encore, des adultes, je peux vous garantir, qui meurent à cause du paludisme. Donc, il y a le paludisme, mais vous avez aussi d'autres pathologies comme le cancer du col. Quand on parle de cancer du col, on demande aux femmes à partir de 40 ans de faire un frottis annuel, frottis cervico-vaginal pour le dépistage du cancer du col. Ça coûte combien un frottis? Un peu moins de 30 000 francs. Pourtant, chaque année, elle dépense certainement de l'argent dans d'autres choses, des perruques, des laits de toilette et tout. Mais mettre que ça dans le frottis, ça semble complexe parce que ça semble cher.
Surtout quand on se dit que si elle n'est rien, est-ce que j'ai quoi?
C'est ça. D'abord, on n'a rien trouvé la mienne. J'ai dépensé mon argent.
J'aurais pas encore fait quoi.
C'est ça. Donc, pourtant, dès qu'on dépiste la pathologie, on peut vous faire une intervention chirurgicale. Vous gardez votre fertilité, vous avez une vie normale. Le retard de diagnostic dans ce cas va entraîner quoi? Déjà, quand on va découvrir, vous serez déjà en train de faire les symptômes. Quand on vient de découvrir les symptômes, souvent, c'est déjà, ça a touché d'autres organes. Il vous reste un peu moins de 12 mois. C'est pourquoi les jeunes femmes aujourd'hui meurent du cancer du col. Donc, il faut se dire, il y a certainement des difficultés financières, mais investir dans sa santé, investir dans sa prise en charge est primordial, à la fois pour économiser réellement de l'argent, mais surtout améliorer votre qualité de vie.
Finalement, vous qui avez un regard à la fois de pratiquant et aussi de manager du système santé, vous, quel impact ces habitudes-là des consommateurs, des malades, des patients, quel impact ce système-là a sur le système de santé global camerounais?
Sur le système de santé global, le premier aspect, comme on l'a dit, c'est la morbimortalité. Il y a une augmentation de la mortalité de certaines pathologies qui sont dites évitables. La morbidité, c'est-à-dire le taux d'hospitalisation, les conséquences, les complications liées aux maladies et même les dépenses liées à la maladie sont plus graves du fait du retard de diagnostic, du fait que les gens ne veuillent pas aller à l'hôpital. Donc, en dehors de ces aspects, on a parlé de la mortalité, la morbidité et du coût lié aux soins. Il y a même, j'ai envie de dire, le bien-être général. Dans l'écosystème sanitaire, les gens ne font plus véritablement confiance aux hôpitaux. Et ça fait peur de se dire, parfois on dit à quelqu'un, ok, vous êtes malade, allez à l'hôpital. ils se méfient de l'hôpital. Ouais. C'est une sensation que qu'on ne voit pas
ailleurs. On a peur un peu d'hôpital.
Oui, on ne voit pas ailleurs. Sous d'autres cieux, les gens font des heures et des heures pour rencontrer leur médecin simplement pour dire au médecin j'ai mal à la tête. Parce qu'ils font confiance aux médecins, ils font confiance au système sanitaire. Donc ça, c'est un élément important. Il faut pouvoir recréer ce lien avec la population en changeant la manière de soigner, en créant une meilleure relation soignant-soigné pour faire confiance aux gens et les inciter à revenir à l'hôpital.
Alors, vous avez créé une plateforme de médecine en ligne, de consultation et de soins en ligne. Au départ, quelle est la problématique que vous cherchiez à résoudre ?
La problématique initiale, c'est celle du manque d'hôpitaux. Mmh. Aujourd'hui, il y a 1,3 lits d'hospitalisation pour 1000 habitants. Ça veut dire que si on fait face à une véritable épidémie, les gens vont dormir au sol, les gens seront dans la rue parce que même dans les couloirs, les hôpitaux, il n'y aura plus de place. Mmh. Donc, quand vous comprenez ça, vous vous dites, OK, il n'y a pas assez de médecins. Mmh. Il y a environ un médecin pour 10 000 habitants. Il y a à peu près, comme on a dit, 1,3 lits d'hospitalisation pour 1000 habitants. Pourtant, il y a un taux de chômage élevé des médecins. D'après un rapport récent de l'Ordre national des médecins, on a près de 70 à 80% des jeunes médecins qui sont sortis sur les 5 dernières années qui sont au chômage.
Ah bon ?
Vous n'imaginez pas,
c'est la réalité. Elle a son petit frère qui sort en juin, là. Ouais. C'est pour ça qu'elle a ouvert les yeux.
Ouais.
Elle a son petit frère qui soutient dans un mois, là. Donc. Elle a ouvert les yeux en disant, ah bon ?
Et ce qui entraîne effectivement le fait que les médecins qui sortent, vous voyez, votre petit frère va sortir, il se dit, OK, je vais sortir médecin, j'aurai une meilleure vie. Et puis, il se retrouve au chômage. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il commence à regarder dans d'autres pays. Il va se tourner vers la France, il va se tourner vers le Canada.
Et la Suisse, Eldorado.
Et ils partent. Mm. Du coup, pourtant, on a besoin des médecins. Il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'hôpitaux, mais ceux qui sont là partent. Donc, plutôt que d'essayer de construire des hôpitaux à l'appel, on n'en avait pas les moyens, on s'est dit, on va construire un hôpital virtuel. Mmh. Dans cet hôpital virtuel-là, on va permettre à tous les jeunes médecins de pouvoir travailler pour leur propre compte. Et qu'est-ce qu'ils vont proposer, cet hôpital-là, virtuel-là ? Ils vont proposer de la médecine de famille. Il faut savoir que la médecine de famille représente le socle de tout système sanitaire. On ne peut pas bâtir la santé uniquement sur la maladie. La santé se bâtit sur la prévention et sur le suivi et l'orientation. Mmh. Nous, on a un système qui est orienté sur la maladie.
La maladie.
On va vers l'hôpital uniquement lorsqu'on est malade. D'accord. Les seules personnes qu'on pense à vacciner sont les enfants de 0 à 11 mois.
Oui, après là.
Après là, c'est fini.
Freestyle.
Désormais, je pars seulement à l'hôpital quand je suis malade. Ouais. On ne bâtit pas un système sanitaire sur la maladie. On bâtit un système sanitaire sur la prévention, le suivi et l'orientation. Donc, en mettant en place la médecine de famille, nous voulons prendre ces médecins sans emploi qui vont proposer aux familles un suivi régulier à domicile.
D'accord.
Dans le cadre de la prévention des maladies, le suivi, l'orientation vers les spécialistes et la prise en charge globale, même en cas de maladie. C'est-à-dire, désormais, lorsque je suis malade et même lorsque je ne suis pas malade, je me réfère à mon médecin de famille qui me dit comment m'alimenter, qui me dit si j'ai des pathologies héréditaires, qui me dit quels sont les vaccins que je dois prendre. En cas de maladie, je m'oriente vers lui. Il me prend d'abord en charge à domicile. S'il ne peut pas tenir à domicile, il m'oriente vers un hôpital. Il reprend le relais derrière pour continuer à me suivre. Et il m'oriente de manière générale dans ma santé.
On a toujours pensé que médecin de famille, c'était pour les bourgeois.
Les bourgeois, les riches.
Pour les riches. Ouais. Est-ce que c'est justement accessible, ça, aux consommateurs moyens ?
Oui, c'est très accessible parce qu'aujourd'hui, nous, on veut des offres qui commencent à partir de 10 000 francs par année par famille.
Ah, d'accord.
10 000 francs par année par famille. On n'a pas dit par personne, par famille. On a dit par année. Ça veut dire que pour toute une famille qui vit dans la même maison, vous pouvez avoir un médecin de famille pour 10 000 francs, pour un abonnement de 10 000 francs par année. Et vous avez accès à votre médecin de famille durant toute l'année à partir de cet abonnement-là. C'est volontaire parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément les capacités financières, comme on l'a dit. Mais si on compare avec des abonnements télé, les gens ont des abonnements télé où ils payent entre 5 et 10 000 francs par mois pour se divertir. C'est normal, il faut se divertir, mais il faut penser à sa santé également.
D'accord, ok. Donc, est-ce que le digital, justement, puisqu'on a parlé de beaucoup de problématiques, est-ce que, d'après vous, le digital peut casser l'habitude d'attendre qu'il soit trop tard? Vous avez parlé de la prévention, j'aime beaucoup dans la santé la prévention. Est-ce que vous pensez, en regardant l'écosystème camerounais, le système sanitaire, que les gens commencent à adhérer au fait qu'il y ait un système qui puisse casser cette envie d'aller quand il est déjà trop tard?
Aujourd'hui, le digital a une forte proposition dans le cadre de la prévention. Il y a beaucoup d'actions qui peuvent être menées grâce au digital. C'est-à-dire aujourd'hui, on aurait une plateforme où on peut référencer tous les Camerounais. On saurait quel est l'état de santé de chaque personne et quelles sont les actions préventives qu'on doit mener chez chaque personne. Par exemple, aujourd'hui, en Europe, à partir de 50 ans, vous recevez à une fréquence irrégulière une enveloppe dans votre boîte aux lettres avec un dispositif pour envoyer un échantillon de sel pour dépister le cancer du côlon.
Ok.
Tout ça, c'est la base. Mmh. Il faut mettre tout le monde dans un système et pouvoir suivre quotidiennement. Maintenant, la population n'est pas forcément encouragée à aller vers le digital. Mmh. Quand vous parlez d'une application à quelqu'un liée à la santé, la personne se dit « c'est complexe ». Comment je vais naviguer dans ça? Je ne suis pas à l'aise avec les sites web. Je ne sais pas utiliser ça. La preuve, c'est qu'on a des parents qui ne se rappellent même pas de leur mot de passe. Mmh, mmh. Si vous leur dites « ok, il va falloir vous connecter tous les matins sur une application pour suivre votre glycémie, suivre votre tension artérielle. » Donc, il faut trouver le moyen d'adapter nos solutions à nos réalités locales. Mmh. En passant par exemple par des appels téléphoniques, en passant par des messages de rappel. Des messages WhatsApp, des messages de rappel, de prévention, des conseils santé via WhatsApp. C'est cette adaptation qu'on essaie de faire, mais il faut surtout passer par l'éducation digitale. Il faudrait qu'à partir de l'école primaire, on puisse inclure le fait de sensibiliser les enfants sur la prévention, sur leur santé et sur l'utilisation du digital de manière générale.
Est-ce que vous avez l'impression que que cette approche-là va rapprocher un peu plus rendre la médecine un peu plus humaine, vous en parliez tout à l'heure. Vous avez dit, je cite, il faut rendre la médecine plus accessible, plus humaine et plus proche des populations. Est-ce qu'avec ça, la population sent qu'il y a un vrai lien personnel parce que la conversation est directe?
Oui, forcément, lorsque vous avez un médecin de famille déjà qui vous connaît depuis 5 ans, 10 ans, vous ne vous adressez plus à lui comme à un étranger. Ouais. J'avais l'impression que c'est un membre de la famille. À la limite, quand il arrive, souvent, dans certains cas, pour certaines familles, le médecin arrive, il s'assoit, lui sert d'avoir à manger. Quand il finit, pendant qu'ils sont en train de manger à table, la consultation a commencé, sans qu'ils ne se rendent compte, finalement, comment ça évolue, tes symptômes de la dernière fois. La relation soignant-soigné est radicalement différente.
Ouais.
On se sent véritablement soigné, on ne se sent plus uniquement dans le cadre de l'urgence. Comme aurait dit quelqu'un, les gens prennent leur santé en Afrique, parfois au Cameroun, comme ils crèvent leur voiture. Pas de prévention, uniquement gérer les pannes. Donc aujourd'hui, on doit considérer que notre organisme, ce n'est pas simplement un véhicule qu'il faut soigner en cas de panne.
Ouais.
Notre organisme, il faut anticiper sur la maladie pour pouvoir améliorer votre état de santé.
Justement, docteur, vous avez également évoqué le fait que certains médecins jeunes peuvent rejoindre la plateforme. Ceux-là, comment est-ce qu'ils font s'ils veulent rejoindre l'aventure Clinic Home, proposer leur service également chez Clinic Home? Ce serait quoi la procédure à suivre pour rejoindre la plateforme?
Aujourd'hui, il suffit juste d'aller sur www.clinichome.cm.
Oui.
Sachant que si vous tapez juste sur votre barre de recherche Google Clinic Home, la première proposition, c'est celle qui va sortir.
Ouais.
Donc, une fois que vous êtes dessus, vous avez le bouton inscription et vous avez l'option patient et médecin. Parce que les patients aussi peuvent s'inscrire sur la plateforme pour utiliser les modules. Il y a beaucoup de modules de prévention qui sont gratuits sur la plateforme. Donc, vous tapez sur inscription et sur la partie inscription, vous avez médecin et patient. Pour les médecins, ils cliquent simplement sur médecin. Ils vont remplir un formulaire, mettre la documentation relative à leur autorisation d'exercice au Cameroun.
Okay.
Parce qu'il faut se dire aussi que on n'a pas pour objectif d'employer des médecins clandestins pour la sécurité. C'est la vérité. Pour la sécurité des patients.
C'est le minimum.
Aujourd'hui, vous allez vous inscrire, vous mettez votre documentation relative à votre autorisation d'exercice au Cameroun de la médecine, qui est l'Ordre national des médecins. Et derrière, il y a une équipe qui va analyser votre dossier, vous contacter, organiser un entretien et vérifier vos informations avant de vous donner accès à la plateforme.
D'accord.
Donc ça, c'est la procédure pour les médecins. Maintenant, pour les familles, elles ont deux options. Soit elles s'inscrivent tout simplement en cliquant sur le bouton inscription, comme je l'ai dit. Il suffit juste de mettre le numéro de téléphone et le nom, vérifier sur WhatsApp et c'est OK, vous êtes inscrit. Vous pouvez accéder au module de l'application. Mais vous avez aussi la possibilité de demander un médecin de famille.
D'accord.
Donc, ceux qui veulent un médecin de famille vont simplement sur l'application, sur le header, sur le menu, ils cliquent sur « Demander un médecin de famille ». Et là, on va leur demander dans quel quartier ils habitent, combien de personnes il y a dans la famille, est-ce qu'il y a une assurance, ainsi de suite. Et après avoir rempli ça, nous allons vous contacter et nous allons vous donner un médecin de famille, même si vous n'avez pas encore payé un abonnement.
D'accord.
Parce qu'on veut d'abord donner un médecin de famille. Il y a des médecins qui cherchent du travail, qui veulent travailler dans de bonnes conditions. Il y a des familles qui ne sont pas convenablement suivies. On veut d'abord les mettre en relation avant de partir sur l'aspect financier de la chose.
Je rappelle qu'également, grâce à Clinique Home, vous avez la possibilité d'avoir également des cartes santé famille, ça il faut le dire, qui vont de 5 000 à 25 000, avec notamment l'offre premium 25 000 par mois, qui vous donne droit à des consultations familiales mensuelles, des bilans de santé, des médicaments préventifs, des dossiers médicaux électroniques, télésurveillance et téléconsultations illimitées. Ça c'est 25 000, 10 000 francs, c'est quasiment pareil, hein, c'est quasiment pareil avec, voilà. Donc à part de 5 000 à 10 000 francs par mois, 5 000 à 25 000 francs par mois, pardon, vous avez une carte santé famille. Ça représente quoi la carte santé famille? J'ai donné un peu ce qu'on y gagne, mais de manière terre à terre, c'est quoi?
La carte santé famille représente votre bouée de sauvetage, en fait.
Voilà.
Ça veut dire tout simplement, c'est la bouée de sauvetage. On est là avant la maladie, et en cas de maladie, vous êtes sûr que vous avez une solution immédiate à domicile. Donc, on prévient la maladie avec vous à travers des protocoles préventifs, parfois des médicaments qu'on vous donne pour éviter même que vous ne tombiez malade.
Oui.
Le suivi des pathologies comme l'asthme, l'épilepsie, prévenir les cancers héréditaires. Il y a des familles, par exemple, qui ne sont pas rentrées, qui ne savent pas qu'ils ont une propension à faire tel ou tel cancer et qu'eux, ils doivent prendre plus de précautions pour prévenir ces cancers-là. Donc, il y a cet accompagnement préventif derrière la carte santé famille. Mais surtout, vous savez que si vous tombez malade, vous aurez toujours une solution immédiate que nous allons vous apporter à domicile. Et s'il y a nécessité, on peut vous orienter vers les hôpitaux partenaires grâce à la carte.
Et moi, ce qui me plaît énormément, c'est que c'est les consultations à domicile. Tu es chez toi, tranquille, tu ne vas pas t'aligner. Parce que c'est aussi ça qui stresse dans l'hôpital. Ouais. L'alignement, l'odeur de l'hôpital, le stress aussi, machin, tout ça. Dès que vous avez des consultations à domicile qui commencent à partir de 10 000 francs CFA, de lundi à vendredi, le week-end, c'est 15 000. Ça, c'est en journée. Et la nuit, c'est à partir de 20 000 la nuit. Quand on dit la nuit, c'est de 18h à 8h du matin. Vous avez des spécialistes que vous pouvez toujours. Je rappelle ça à domicile. Hein. Tu es chez toi, tu appelles, le médecin vient, tac. Bon, il faut aussi l'inviter pour son quartier. Mais bon. Il vient là, il te consulte. Tu es peinard à la maison, il te fait ton ordonnance là. Tu vois, tu bouges pas. Ça, c'est, pour moi, c'est chouette. Ouais. En réalité,
c'est aussi efficace pour ceux qui
vivent seuls.
C'est
chouette et c'est quasiment. Déjà, tu vis seul, voilà.
Ouais, tu n'as pas
et
la même, force, tu n'as personne à
et même parfois, tu es vraiment malade au point de ne pas pouvoir te déplacer. Ouais. Tu vois, ou même. Bref, c'est super, franchement. Et c'est au prix, comme si vous êtes sorti. Parce que n'oubliez pas qu'on vous dit 10 000 là, il y a le taxi, il y a la tente.
Et tu es malade, tu vas prendre le dépôt.
Et tu es malade, oui, tout ça. Donc, vraiment, il faut évaluer. Vraiment. Et moi, je vous dis, réfléchissez bien. Hein? Et vous avez les visioconsultations. Ça, par contre, ça me plaît. C'est à partir de 1 000 francs. Bon, ça dépend de ce que vous voulez. C'est à partir de 1 000 francs. Ça, c'est en semaine. En semaine, en journée. Et le samedi, en journée, c'est à partir de 1 500. À partir de 1 500 de la nuit. Et évidemment, tu appelles le médecin et il te dit, OK, montre-moi ce que tu as. OK, c'est le bouton, si, d'accord, OK. C'est propre.
Voilà.
Et la même chose pour un spécialiste. Toujours par appel visio. Et à partir de 4 000 francs en journée, 5 000 francs le week-end et 6 000 francs la nuit. Donc, c'est pareil. Hein, tu appelles, allô, oui, qu'est-ce que tu as? Tu as quel machin et tout et tout. Et vous avez encore mieux encore. Tu peux même aller peut-être avoir consulté ailleurs, mais il faut faire des soins infirmiers. Les choses qu'il faut mettre la perfusion tous les jours, tu vas te lever tous les jours pour aller chercher. Non, tu es tranquille chez toi à partir de 9 000 francs. Tu as les soins à la maison posés. Tu es là tranquille. Quelqu'un vient t'apporter, tu viens te faire des injections, faire des pansements, les perfusions, tout ça. Tu es à la maison, tu es posé. Aussi, il y a tellement de choses. Les prélèvements de labo, on t'a demandé l'examen de sel. Peut-être que tu dois aller au boulot le lendemain. Tu es quelqu'un qui vient, tac, tu fais prélèvement, pack, il s'en occupe et puis tu es tranquille à la maison.
Après ça, prélèvement, il s'en occupe. Tu fais ton business.
Oui, c'est pas que.
Donc, il vient prélever la source, non.
Oui, pas ça. Si, c'est. Par exemple, on demande de prélever les spermes. C'est pas elle qui va venir t'aider. Non. Elle prélève, elle prend un gars, tu vois un peu. Et aussi, il y a un service qui m'a beaucoup touché chez Clinicom, c'est les auxiliaires de vie. On a. Ça existe. C'est à partir de 100 000 francs par mois. Des gens qui sont là pour la toilette, le portage de repas, les mobilisations et autres. Donc vraiment, quand on a des parents qui sont âgés, ou même des gens à la maison qui ont besoin d'être accompagnés, ouais. parce que pendant un moment, ils sont malades, parce qu'il y a des maladies qui vous clouent au lit un an, deux ans, hein, ça arrive.
Des maladies
hein.
ou des accidents.
Ou des accidents, voilà.
On vient de t'opérer, tu voilà. peux pas faire plein de choses, il n'y a personne à la maison pour t'aider.
Oui.
Voilà, ça peut aider.
Donc tu as une auxiliaire de vie qui vient voilà, t'accompagner. Bref, c'est un super service, les amis. Tapez simplement « Clinic Home ». Quand vous l'entendez en un seul mot, vous allez voir hein, le site apparaître. Sans même que vous ne vous inscriviez, vous allez avoir toutes ces informations-là auxquelles vous pourrez avoir accès, comme il a dit, même également à tout ce qui se passe. Je crois qu'on a fait le tour. Là, c'est la santé à portée de main, quand même. C'est la clinique, pardon, à domicile, la santé à portée de main. Merci beaucoup, Doc, d'avoir été avec nous encore merci, aujourd'hui. Doc. On espère encore te recevoir très bientôt pour une autre thématique.
Parce que pour dire qu'on peut attraper, Doc, c'est très compliqué.
Hein. Il est entre, il est entre deux avions, tu vois. Hein, ouais, ouais. Entre deux ans. Ah il a lancé sa caravane là, vraiment. Le pays a quand même gâté. Son camion est tout garé là-bas. Mmh. Alors que c'était un bon truc. On partait dans les quartiers, je soignais les gens. Mais bon, on attend le prochain ministre. Parce qu'il y a Romaniment. Peut-être que c'est ça qui va changer les choses.
Et tu vois qu'il est très sage. Depuis, il ne parle pas. Mais il ne se prononce pas.
Merci beaucoup, Doc, d'avoir été merci avec nous. Passe une bonne journée.
Merci.
Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.